Radio Kapi. Oh, Kapi. Pascal Masséka pour les journaux.
Au sommaire ce matin, par la bouche du chef de la diplomatie, le gouvernement congolais prend acte du financement de 528 millions de dollars américains promis à Genève en Suisse par les pays donateurs pour soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à RDC. Léonard Cheokitundu parle d'un chiffre en deçà des résultats escomptés. À Kinshasa, la voirie urbaine est à la base de la défectuosité des véhicules, déplorent certains propriétaires et chauffeurs de la ville. Ils ne savent pas à quoi sert l'argent qu'ils versent quotidiennement si la voirie ne met pas fin au nid des poules. Le centre ARUP pour la recherche et la formation et la FEC viennent de réfléchir à Lubumbashi sur le regard croisé du cobalt comme minerai stratégique dans un environnement marqué par la pauvreté de la population. C'est un dossier de ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais dit prendre acte du financement de 528 millions de dollars américains promis par les pays donateurs pour soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à RDC. C'était vendredi dernier à la conférence internationale de Genève en Suisse. C'est confié en Radio Okapi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dit accepter la solidarité internationale. Il souhaite cependant que le gouvernement soit associé aux décisions sur l'affectation de ce fonds. Élisée Ticota.
Au moins 13 millions de personnes, dont un tiers de déplacés internes, ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence cette année, selon les organisations humanitaires. Mais pour le gouvernement congolais, ce chiffre est exagéré. Il s'agit plutôt de 230 000 personnes. À la question de savoir si les ONG peuvent travailler avec cet argent, le ministre des Affaires étrangères précise que le gouvernement congolais ne s'était pas opposé à cette idée.
C'est un malentendu. Nous, on ne s'était pas opposé. Les donateurs auront contribué, mais ils vont utiliser les ressortissants et de leur propre pays.
La conférence internationale de Genève n'a pu obtenir qu'un tiers du montant attendu, rappelle chez Okitundu. Cette faible mobilisation ne serait-elle pas une conséquence du refus du gouvernement à participer à cette rencontre? Chez Okitundu répond.
Si on n'a pas atteint le montant qui était attendu, je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on a surévalué la situation sur place. Nous sommes les premiers responsables de l'aide à apporter à nos compatriotes parce que c'est nous qui sommes le gouvernement.
Selon les analyses, en début 2017 du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, le contexte humanitaire est aggravé par les tensions politiques préélectorales, le ralentissement économique et la propagation des violences intercommunautaires.
Léonard Cheokitundu, chef de la diplomatie congolaise, est l'invité de Radio Kapi ce lundi matin. Le gouverneur de l'Ituri appelle les déplacés de Djougou à regagner leur milieu d'origine. Appel lancé hier dimanche après une mission effectuée samedi après-midi dans plusieurs localités de ce territoire. Abdallah Penembaka affirme qu'au-delà du calme qui règne en ce moment, les conditions humanitaires seront améliorées en vue de la réinsertion sociale de ses habitants. On l'écoute au micro de Sadiki Aboubakar.
Il faudra que les gens rentrent, parce qu'on ne peut pas bien vivre dans un camp de déplacés. Les gens doivent rentrer chez eux et revenir à leurs activités. On était avec une délégation de déplacés qui sont ici à Bounia, qui sont allés se rendre compte de l'effectivité de la reprise des activités sur terrain. Soyez rassurés qu'ils étaient émerveillés et d'autres ont même refusé de rentrer avec nous. Mais nous, nous étions dans l'obligation de les ramener d'abord à Bounia pour qu'ils fassent la restitution auprès des autres déplacés de guerre, que les conditions de sécurité sont déjà remplies, ils peuvent rentrer pour s'occuper de leurs activités. Mais nous pensons qu'il y a encore certains travail à faire, notamment en ce qui concerne le cadre politico-administratif. Le chef de village, le chef de groupement et le chef de chefferie et secteur, ils doivent multiplier des contacts entre différentes communautés pour que l'acceptation mutuelle ne soit plus un vain slogan, mais que les gens le vivent. Il y a un accompagnement psychologique que nous devons assurer à l'endroit de certains qui ont perdu des biens, qui ont perdu les leurs. Et il y a aussi un accompagnement matériel que nous devons envisager un minimum.
Non loin de là, au Nord Kivu, les conditions de vie restent déplorables ce jour-ci pour les déplacés vivants dans des familles d'accueil à Kanyabayonga, cité située à plus de 200 km au nord de Goma. Constat fait par Donatien Mongané, un des notables du territoire de Lubero qui revient justement d'une itinérance dans cette zone. Il affirme que ces déplacés n'ont rien à manger et n'ont pas accès aux soins médicaux. Ajouté à cela, l'insécurité dans la zone. Il s'est confié à Freddy Bikumbi.
La situation que j'ai vue là-bas, j'ai constaté que la population est très nombreuse à Kanyabayonga, c'est-à-dire toute la population qui, par souci d'insécurité dans les Wito, ils ont déversé à Kanyabayonga. Et j'ai visité les hôpitaux, j'ai trouvé que les médecins sont surmergés, surchargés, dépassés par la suite de l'afflux massif de la population. Déplacés n'ont qu'une chose à demander, la sécurité. L'instauration de la sécurité dans leur milieu, et chacun va rentrer chez lui, va s'occuper de ses activités champêtres, et là, la situation va aller normalement. Parce que, avec les déplacements massifs, les étudiants, les élèves ne vont plus à l'école, et même ils ont des difficultés de survie, les enfants ne peuvent plus même étudier aussi au niveau de Kanyabayonga, les écoles sont submergées. Donc, c'est une situation qui est vraiment catastrophique pour tout le monde.
Nord Kivu encore, le vice-président de la CENI est arrivé hier dimanche après-midi à Goma. But de sa mission, assurer dès ce lundi la formation des chefs d'antenne territoriale de cette institution d'appui à la démocratie du Nord Kivu sur l'utilisation de la machine à voter. Norbert Basengezi Katintima parle d'une reconnaissance scientifique dont la propriété intellectuelle revient à feu l'abbé Apollinaire Malumalu. Il est dit à Freddy Bikumbi.
Pour cette machine à voter, nous n'allons pas faire comme en 2006, où les gens avaient encore refusé notre kit. Nous allons demander la propriété intellectuelle, et ça sera dédié à l'abbé Malumalu. C'est lui encore qui, en 2013, a commencé la réflexion sur la machine à voter. Il est mort en 2016. Son vice-président, c'est moi. Son Sénat, c'est mon président, Corneille Nanga. Nous continuons l'œuvre de notre président. Nous avons déjà écrit au ministère de l'Industrie et à d'autres scientifiques pour que nous ayons les certificats de cette machine. Comme ça, comme aujourd'hui au Togo et dans tous les pays du monde, on commence à utiliser les kits qui est une invention congolaise et personne ne nous paye. Et nous, nous n'allons pas laisser les scientifiques congolais mourir des intox. Il faut que nous ayons la propriété intellectuelle.
Ici à Kinshasa, la voirie est à la base de la défectuosité des véhicules, déplorent certains propriétaires et chauffeurs de véhicules de la ville. En effet, lancé depuis quelques jours, le contrôle technique initié par l'hôtel des villes, bien que favorablement accueilli par les usagers de la route, provoque du coup le questionnement des chauffeurs qui se demandent qu'est-ce qui est fait de l'argent qu'ils versent si la voirie urbaine ne favorise toujours pas la circulation avec ses nids d'époules. Un reportage de Jacques-Yves Molima.
Quelle route encore praticable devons-nous emprunter pour atteindre les lieux de contrôle technique ? Ironise un conducteur de taxi pour exprimer son ras-le-bol quant à l'état des routes de Kinshasa au moment où le contrôle technique bat son plein.
Il est normal que la réfection de route suive au moment où le contrôle technique par les autorités est de rigueur.
Eh bien oui, les routes dans la capitale posent problème, les chauffeurs taxi s'en plaignent.
Nous avons toujours fait ces contrôles techniques et pour cela nous avions même sorti de l'argent. En retour, ils nous ont promis de réhabiliter des routes. Mais une fois sur ces routes, les rotules et autres pièces tombent en panne, je débourse encore de l'argent. Cela décourage.
C'est vraiment décourageant et les cas sont légion. L'avenue Kabamba traversant les communes de Kinshasa et Barumbu laisse à désirer. La grande voie qui mène vers le marché central Bokassa n'existe presque plus. Les usagers qui empruntent encore les avenues Kasai et Itaga pour atteindre le centre-ville s'engagent plutôt dans un combat contre la nature. En plus de ces désagréments, les chauffeurs soulignent.
Ce sont les tracasseries qui fauchent les contrôles techniques. Ils bloquent les routes, mettent des sabots sur des pneus. Ce n'est pas mauvais, mais qu'ils les fassent d'une bonne manière.
Cependant, pour les contrôleurs, ils ont bénéficié d'un moratoire assez long. Mais les conducteurs rétorquent.
Va sur Sayo, va sur les routes, elles se meurent. Ce temps accordé, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Et nous, on fait quoi ? C'est malheureux.
La sagesse voudrait que les actions accompagnent la rigueur.
Merci Jacques-Yves Molima. Instauration du péage route dans la province du Sud-Ubangi. Cette mesure a été annoncée vendredi dernier par le gouverneur Taïla Nagé à Boyambi-Bosembe, localité située à 6 km sur la route Gemena-Zongo, Ambandaka, Dominique Wonombi-Mongampangé.
Les paiements de la taxe et péage annoncés par le gouverneur du Sud-Ubangi est fixé de la manière suivante. 500 francs congolais pour les motos à deux roues, 2000 pour celles à trois roues, 2500 à 7500 pour les voitures et camions et 12000 francs pour les camions de transport de 6 tonnes et plus. Des recettes du péage, précise le gouverneur Taïla Nagé, 80% seront affectées à la maintenance de ces routes par cantonnage manuel et 20% au paiement des cantonniers. Ce système de péage va fonctionner avec trois postes qui seront installés le long des routes. Le premier poste est celui du paiement du péage par les usagers. Le deuxième a pour mission le contrôle si l'usager de la route empruntée a bel et bien payé son péage. Et il est également mis en place le système de suspension de circulation en cas de pluie pour protéger les routes. Pour l'autorité provinciale, l'instauration systématique du péage a pour but de maintenir la praticabilité de la circulation des routes du sud Ubangi, cette province dont les activités économiques reposent sur les routes. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce matin, les organisations de la société civile du Kwango et les chefs de terre de Bukangalonzo représentés à Kinshasa dénoncent la non-application des résolutions de la table ronde sur la présence des vaches dans cette contrée. Ils demandent au gouvernement de redistribuer les vaches cantonnées à Bukangalonzo dans les hôpitaux, les prisons et les orphelinats du pays. Déclaration faite à la presse à Kinshasa par leur porte-parole 30 jours après la tenue de cette table ronde. Théophile Ngamadika, interrogé par Paul Mateno.
Considérant que 30 jours après la tenue de cette table ronde, aucune de ces résolutions n'a été mise en application, nous, Société civile du Kwango, notables et représentants des chefs coutumiers du secteur de Bukangalonzo, exigeons du gouvernement de récupérer les vaches qu'il devrait déjà acheter depuis 30 jours et de les acheminer en scellé comme promis ou de les distribuer dans les orphelinats, hommes d'étudiants, hommes de vieillards, prisons ou hôpitaux. Que les éleveurs rentrent s'occuper de leurs fermes, condamnant l'envoi des officiers de police nationale pour traumatiser les populations et ces hommes qui doivent rentrer dans leur caserne. Quant au président de l'Assemblée nationale, il lui est recommandé de s'assurer que les résolutions qui concernent le Kwango soient appliquées parce que les Kwangolais ne sont ni dupes ni manipulables à ce sujet. Sa crédibilité est ici engagée.
On enchaîne avec le Kasaï central où 29 détenus ont été libérés samedi dernier de la prison de Kananga. Selon le directeur de cette maison carcérale, cette libération intervient au lendemain de leur acquittement par l'auditorat militaire après 3 mois d'audience en chambre foraine. Ils étaient poursuivis pour mouvement insurrectionnel, détention d'armes de guerre et meurtre. Leur avocat conseil s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de ces dossiers et invite ses clients à faire preuve de bon sens. Barthélémy Bobila au micro de Blaise Nongala.
Un sentiment de joie. Et pour les restes qui sont condamnés, les 6, je sais que j'ai déjà introduit la requête en appel. Et à la longue, on saura comment les récupérer aussi pour qu'ils obtiennent leur acquittement. Je vais remercier le directeur de la prison parce que vous les voyez tous presque, ils sont en bonne santé. Et surtout les gouvernants aussi qui les aidaient avec à manger. Et je vais dire qu'ils étaient bien gardés dans de bonnes conditions. Un mot à tous les clients qui sont acquittés, qu'ils s'amendent davantage parce que le temps qu'ils ont passé en prison, c'est un temps suffisant pour eux. Et à la longue, si on les arrête, qu'ils cherchent toujours comment être toujours courtois les gens qui les arrêtent alors. Ils étaient poursuivis du chef des 3 préventions, mouvement insurrectionnel, détention d'armes de guerre et puis meurtre ou homicide involontaire.
Actualité Afrique Monde.
Au Mali, 7 soldats français ont été blessés dans l'attaque qui a visé samedi dernier les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou, au nord du pays. C'est suite à l'attaque qui a coûté la vie à une quinzaine d'assaillants, selon l'état-major français cité par l'agence France Presse AFP. L'assaut a fait au moins un mort et une dizaine de blessés parmi les casques bleus, selon la mission des Nations Unies au Mali. Un premier bilan dressé auparavant par les autorités maliennes parlait d'une dizaine de blessés parmi les troupes françaises. La mission des Nations Unies en Centrafrique a ouvert une enquête après l'arrestation vendredi dernier d'un casque bleu soupçonné de s'être livré à un trafic de munitions. Un casque bleu de la MINUSCA en tenue civile a été appréhendé à Bangui, la capitale, par la gendarmerie nationale en possession des munitions. Une enquête préliminaire menée par la MINUSCA est en cours en ce moment. Selon une source militaire, le soldat est soupçonné de trafic de munitions. La tension règne depuis quelques jours à Bangui depuis plusieurs jours avec des affrontements entre forces de sécurité et groupes armés locaux. La MINUSCA condamne sévèrement ce grave manquement présumé aux directives en vigueur en matière de détention et d'usage d'armes de guerre et de munitions. Selon une source militaire, le casque bleu appartient au contingent gabonais. L'état membre du casque bleu concerné sera notifié dès cet incident en vertu des procédures en cours.
Radio Okapi, Okapi.